Dit-il ?
C'est l'heure de la radio.
Radio Campus. 88.3.
Alors c'est la fin.
Non. C'est le commencement. Le monde ne sera plus jamais le même.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Histoire à la vie. Aujourd'hui, nous parlerons de femmes libres, fortes, indépendantes, dont le courage a influé sur le destin du monde. Mythes et légendes font état d'un peuple de guerrières farouches, adoratrices de la lune, qui se tranchaient le sein droit pour mieux tirer à l'arc. Ces femmes, qualifiées de barbares par les Grecs, étaient connues sous le nom d'Amazones. Dans l'inconscient collectif, elles prirent rapidement la dimension de symbole de la femme affranchie de la tyrannie patriarcale et en lutte contre l'hégémonie masculine à travers les âges. Toute légende a un fond de vérité. Du temps où les Grecs se répandirent sur le pourtour de la Méditerranée, implantant des colonies, ils firent la rencontre de peuples aux mœurs et coutumes diverses. Parmi ces cultures dites barbares, car non grecques, et non pas sauvages au sens contemporain du terme, existait un peuple de femmes guerrières montant à cheval, pratiquant à merveille le tir à l'arc dans la région du Bosphore, qui correspond à peu près à l'actuelle Crimée, au-delà des détroits et du pont Euxin, nom que l'on donnait autrefois à la mer Noire. Ces peuplades, considérées comme vivant aux confins du monde par les Hellènes, faisaient le commerce du blé contre des produits artisanaux. Pour un Grec, dont le modèle civilisationnel était la cité, ces Amazones, comme on pouvait les appeler, ne correspondaient à rien de connu ou à rien d'acceptable, si ce n'est que cette civilisation ne pouvait être que barbare, car rejetant l'autorité patriarcale. Le modèle patriarcal, à la tête de la famille, étant bien entendu la forme de civilisation la plus couramment répandue dans le contexte méditerranéen, et donc chez les Grecs. Pourtant, l'épisode du travail d'Hercule, devant récupérer la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones, démontre une attitude apaisée et empreinte de respect de la part des Grecs. Hercule, croyant avoir affaire à des bêtes sanguinaires, fut surpris de leur accueil. Courtois et civilisés, leur société, très loin de brimer les hommes, était organisée et paisible. Par respect et par compassion à ses malheurs, la reine remit sa ceinture librement au héros grec qu'elle honora, et celui-ci en fut reconnaissant. Barbare, oui, mais civilisé, sûrement. Le mythe de la guerre de Troie raconte sur les 10 années de conflit l'implication des Amazones alliées aux Troyens. Achille tua leur reine en combat singulier, mais la pleura sincèrement. Il ordonna ses funérailles, et lui comme les autres Grecs l'honorèrent, comme la plus noble et la plus valeureuse des combattantes entre tous, hommes et femmes confondus. Le féminisme se revendique de cet exemple qui se perd dans la légende. Légende glorieuse, empreinte de valeur, que nos démocraties modernes ne renieraient pas, si ce n'était ce vil penchant masculin de garder la femme soumise, et même à l'écart. Il existe d'autres modèles de femmes combattantes, commandant même à des hommes. Jeanne d'Arc, en France, mènera les armées royales pour bouter l'envahisseur anglais hors du royaume. Même décriée, elle demeure une figure incarnant le patriotisme. Peu après elle, Jeanne l'aînée, qui se distingue au siège de la ville de Beauvais. Sur les remparts de sa cité, elle soutient ses concitoyens face à l'assiégeant bourguignon, jugé implacable et cruel. Se saisissant d'une hache, elle repousse les assaillants, galvanisant la résistance de la ville, qui ne sera pas prise. L'histoire locale retient le nom de Jeanne Hachette, en référence à son arme. Issue très probablement de la bourgeoisie, elle incarne pourtant la défense du petit peuple contre la folie guerrière des puissants. Si l'homme est un batailleur qui se bat pour un oui ou pour un non, la femme se bat pour une cause. Cause pour laquelle elle n'hésite pas à faire don de sa vie. Jeanne d'Arc, après avoir mené les armées royales, a été emprisonnée et a péri sur le bûcher. Jeanne l'aînée a risqué sa vie contre les puissants bourguignons qui menaçaient de passer femme et enfants par les armes, une fois la ville prise. Elle n'en demeure pas moins soutien d'hommes non moins valeureux que la guerre a meurtri et usé, et que ces derniers honorent en héroïne, en mère ou sœur protectrice, voire enceinte. À travers le monde, d'autres exemples de femmes combattantes affluent dans d'autres cultures, mais toujours présentées comme des figures protectrices contre les forces destructrices dominantes, masculines le plus souvent. Au Japon, au XVIe siècle, au sein de l'ère Sengoku Jidai, qui signifie littéralement « le pays en guerre », les clans en lutte pour le pouvoir suprême, celui de Shogun, existaient des milices guerrières composées exclusivement de femmes. Elles avaient pour nom les Onnabushi. Filles ou épouses de samouraïs, elles maniaient la naginata, espèce de longue lance à lame courbe. Elles étaient dévolues à la protection du shiro, ou château seigneurial, et du han, le fief, quand l'armée était en campagne et risquait une attaque vers l'arrière. Dans le Heike Monogatari, récit sur la guerre de Genpei, Tomoe Gozen, femme samouraï du clan Minamoto, est décrite comme étant particulièrement belle, au teint pâle, les cheveux longs et aux traits charmants. C'était aussi une grande archère remarquable et sa maîtrise du sabre faisait d'elle une guerrière en valant un millier, prête à affronter un démon ou un dieu, à cheval ou à pied. Elle fut l'un des guerriers à rester en vie après la bataille d'Awazu, ayant survécu à son maître, qui fut transpercé d'une flèche au combat. Il y eut aussi les nonnes combattantes. Contrairement à leurs homologues occidentales chrétiennes, ces religieuses maîtrisaient les arts martiaux et maniaient également la naginata ainsi que l'arc. Contrairement aux Onnabushi d'ascendance noble, elles étaient d'extraction populaire, de hauts faits d'armes leur sont attribués. De nos jours, si le kendo, la voie du sabre, est une discipline martiale, sportive et philosophique pratiquée par les hommes, le naginata do, la voie de la lance, et le kyudo, la voie de la flèche, sont les équivalences pratiquées par les femmes. Des femmes également guerrières, il y en avait chez les Vikings. Lorsque le mari partait en expédition, la femme dirigeait le foyer et prenait les armes en cas d'attaque, ce qui était chose répandue, notamment contre les maraudeurs. Les Berbères d'Afrique du Nord résistèrent à l'implantation arabe sous l'égide d'une reine, dit-on à la chevelure flamboyante, la Caïna. Les tribus amérindiennes encore considéraient la femme qui avait autorité pour se séparer de son époux, et non l'inverse. Pourquoi nos sociétés modernes sont-elles si rétrogrades, à côté de ces modèles passés, pas si archaïques en fait ? La place de la femme est une cause pour laquelle beaucoup se battent encore. Au XXe siècle, William Moulton Marston crée en qualité de psychologue et pédagogue un modèle féministe pour la jeunesse. Une guerrière qui décide d'arborer l'étendard du pays qui cristallise les valeurs de la liberté, d'équité et de justice. Cette guerrière est princesse des Amazones. Elle s'appelle Diana Prince, plus connue sous son autre identité, Wonder Woman. Jadis, les légendes relataient l'histoire des Amazones, symbole de la cause féministe, plutôt de la juste place des femmes aujourd'hui. Les comics s'en chargent. Légendaires et historiques, les femmes sont des lutteuses pour une vie meilleure. Je vous remercie de votre fidélité et de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire à la loupe. Au revoir.
un tic-tac vient te bercer. Moi, ça m'empoisonne les méninges. Cet idiophone du Moyen-Âge.
it's gonna be alright.
It'll be okay.
I think that needs to be established for all of us that are easily distracted, impatiently waiting for that American dream, staring at the cracked screen of my anti-fax machine. Crash landed where the woke intersect with the exhausted. They asked if I'm depressed, I don't doubt it. I was told it all began as a quest for some knowledge, progress after you process the conflict. I'll be okay. And if I got one wish, I'd probably waste it trying to make myself an optimist. It's ironic because most of my thoughts are positive. Just hop in the whip, I promise not to drive off of the cliff. Happiness is my favorite physical feature, but I'm afraid I'll figure out that it's a mythical creature. I need to believe in a simulation that we living in. Spent the whole stimulus, check on some stimulants. I'll be okay, just freestyle the answers. If you feel it, put your hands up in front of surveillance cameras, okay? I don't take the buffet for granted. Make you understand it when you see me licking my plate. We gotta travel through space to keep the family safe. Check your connections, can they handle the bass? If they reflect your face, it amplifies the existence of your significance. But only if you survive the collision. It'll be okay, even if you're feeling like there ain't no way. You're still with us today, it's gonna be okay. Okay. Alright, it'll be okay. Even if you're feeling like there ain't no way, you're still with us today, it's gonna be okay. Okay? I think I'm feeling alright. And I'll admit that sometimes I'm probably tongue-tied. Got me staring at the sun like my shoes ain't come untied. The clown face got replaced by this mountain of the Midwest average from the mid-2000s, huh? And being the best was never the intended destination. I just want appreciation for my presentation. Even if I was the only human left in population, this is dedicated to the dedication. You better love yourself today, cause tomorrow'll be harder. Put your guard up, don't let them penetrate your armor. Collect whatever crumbs you got and keep them in a bread box. You knew I was the one when I was sleeping in the wet spot. And maybe if you had a dollar for all of your doubters, maybe you could grow a salad and water the flowers. I know the zookeeper seen my leash and my collar. I'm in a tuxedo smoking weed in the shower. It'll be okay, even if you're feeling like there ain't no way. You're still with us today, it's gonna be okay. Okay. Alright, it'll be okay. Even if you're feeling like there ain't no way, you're still with us today, it's gonna be okay. Okay? I think I'm feeling alright.
Sorti.
Ouais.
Et ouais, il y a toujours eu 10 sorties sur les motus.
Ouais.
C'est ça qui est quand même
ils
cool.
Ont gardé le...
Ouais. Avec le main en 1-2, là. 3 CL.
Dans le cadre de la semaine du son, le GMEA, Centre National de Création Musicale basé à Albi dans le Tarn, proposait une programmation intitulée « L'expérience du terrain ».
Ah oui, c'est juste qu'en fait, le seul truc qu'il faut respecter, c'est que ce soit un cercle.
Ouais. Tu veux dire dans les numéros ?
Pas 1, 2, 3, 4, tu vois.
Ça ferait quoi ? Ça ferait 1, 2, 3, 4 ?
Ouais, on s'était gardé le 1.
Comme tu veux. Toi, vu que t'es face à la console, c'est peut-être bien d'avoir le 1 là.
Ouais, ouais.
Pour le public, ça ne fera pas tellement de différence.
Ouais, ouais.
Si ce n'est que s'il y a une différence, c'est que ces deux haut-parleurs là, c'est pas vraiment un carré. Ces deux haut-parleurs là, ils sont plus proches que ces deux haut-parleurs là.
Ouais.
Tu vois, c'est plus un rectangle.
Ouais.
Donc c'est vrai qu'il y a plus une logique d'avoir 1, 2 là, 3, 4 derrière, tu vois.
Ouais.
On fait ça, mais il faut juste que je le patche ici.
Ouais.
À cette occasion, Olga Kokcharova présentait sa création « Sculpter la voûte » le samedi 4 février 2023 à 17h dans la salle haute du Grand Théâtre.
J'ai mis 1-2, c'est-à-dire que ce que tu envoies là, j'ai mis dans ce sub-là.
Ouais.
Et ce que tu envoies en 3-4, c'est-à-dire ce qui joue là,
sculpter la voûte. Performance d'Olga Kokcharova.
Bon, bah, écoute, moi je veux juste, si c'est possible, d'avoir un peu de...
Je te pose deux questions, je fais la lumière. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Soit tu veux qu'on te voit, toi,
non.
On regarde autre chose. Moi, j'ai un trait vert là, sur l'écran. Mettre un truc à regarder. Moi, j'aime bien dans les écoutes comme ça qu'il y ait quelque chose à regarder, mais ça peut être dans le noir. C'est comme, c'est
hors champ de concert, vestibule sonore, numéro 8.
Moi, je préfère le
dans les coulisses de l'installation et des balances.
Mais juste, ouais. Mais ça, je pense que ça peut être pas mal. Juste, tu vois, c'est, après, je le mets.
Après, s'il bouge pas.
Vert, non, non.
C'est OK.
Ouais.
Après, s'il y a des effets spéciaux, je pense.
Non, 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 il n'y a pas, on fait pas d'effet. Non, non, il n'y a pas d'effet. Non, c'est juste histoire de d'avoir quelque chose à regarder, enfin quand t'écoutes, je sais pas en fait. Moi j'aime bien dans le noir, je sais quand faire des écoutes, mais
non,
je sais
noir,
que des fois c'est bien d'avoir un peu.
Où l'on s'ajuste, s'accorde et s'équilibre avec soi-même et avec les autres performeurs. Où l'on se cale avec l'ingénieur du son, avec la salle et son acoustique, afin que la restitution en public de la création se déroule dans les meilleures conditions et rende justice à la vision de l'auteur.
Ah, vas-y.
Je pense que on peut monter un peu, un tout petit peu le gain sur les canaux. Mais je vais écouter, je te redis. Sinon, c'est.
La thématique du rapport intime au bois, sa matérialité, son origine, son lien à l'humain est au centre du projet Sculpter la voûte. Les différentes étapes du travail d'Olga Kokcharova retracent le cheminement depuis un arbre vivant, mise en vibration par la circulation de la sève, jusqu'au bois de résonance qui devient instrument dans les mains d'un luthier. et qui enfin vibre avec le corps de l'instrumentiste. Tous les enregistrements qui constituent les ressources compositionnelles de la création Sculpter la voûte ont été effectués dans une proximité avec le matériau bois grâce à tout un dispositif de microphone et capteur de contact. La pièce permet donc aux auditeurs et auditrices de suivre les dynamiques de transformation de cette matière depuis un point d'écoute tout à fait singulier, l'intérieur.
Parce que là, pour le moment, tu vois, c'est décodé comme, comme une quadrille équidistante.
Ah, tu veux dire, est-ce que tu peux pas ?
Parce que là, tu peux rentrer
dans
les positions...
Y, Z.
Ouais,
si,
tu vois,
si tu arrives à les remonter un peu, ça peut être pas mal, ouais.
C'est de 0 à 1.
Ok. En fait,
tu vois, donc en réalité, il faudrait mesurer...
Ouais.
Ou bien tu ferais ça au pif.
Un petit peu au pif, mais en tout cas, tu peux le sur ton décodeur, là, tu peux remonter un peu...
Donc c'est ici que ça... ici que tu peux rentrer, donc tu vois...
Moi, je peux te dire à peu près, si tu veux, à peu
le
près...
Le X, c'est ça.
Ouais. Donc, c'est-à-dire que là, ça, il faut le remonter un petit peu et ça le descend un petit peu.
Ouais, ouais.
Quasiment, tu sais, tu pourrais presque essayer d'aller jusqu'à 1.
T'as groupé toutes les infos, en fait.
Ouais, c'est ça, mais après tu peux le dissocier, je voulais juste... Ah voilà, c'est ça.
Donc en fait, tu peux aller doucement là.
Ouais, c'est ça, tout le début. Bon, c'est subtil, hein, tu vois, c'est pas...
Tout le début? Jusque là? Tu vas montrer un petit peu par rapport à...
C'était peut-être ce que t'avais avant, c'est au tout début, là.
Mais en avant, c'est vachement rythmique, tu vois, c'est un peu comme ça.
Oui. Bah, tu vois, à la fois ça et le passage un peu souffle là, c'est vrai que j'avais envie un peu d'être un peu plus pris dans la matière.
Olga Kokcharova, née en Sibérie et basée à Genève, s'intéresse à tout ce qui est audible, indépendamment du médium. Elle travaille avec des synthétiseurs modulaires analogiques et des enregistrements de terrain, privilégiant une prise de son minutieuse, mais expérimentant aussi dans des circonstances où le matériel d'enregistrement est mis à l'épreuve. Ses sources sont alors travaillées en vue de composition, d'improvisation électroacoustique multicanale, de bandes-son, ou encore d'installations sonores dans l'espace public. Olga Kokcharova se produit régulièrement en Suisse et à l'étranger, seule ou en collaboration avec des artistes tels que Jacques Demierre, Gianluca Ruggeri et Thierry Simoneau.
Tu es prête ?
Moi ?
Oui.
Pour
tes balances.
Oui, ça va, ouais. Ouais, ça va. Ouais.
Je peux te parler pendant que tu fais ce que tu vas faire maintenant ?
Oui, on peut. Tu veux que je laisse tourner le truc ou...
Mais tu pourrais faire...
Comme tu veux.
Tu pourrais faire...
Peut-être sans.
Alors, sinon, je peux prendre un peu plus abstrait. Ah oui, peut-être sans, c'est plus simple. Ouais.
Ou pas.
Ouais.
Non, comme tu veux.
Peut-être un peu dedans.
Tu penses à l'écriture sonore même quand tu n'es pas en train de
le fait est que les oreilles sont toujours ouvertes, tu vois, donc... même il y a des gens qui travaillent, etc.
Oui,
donc c'est pas... C'est pas le silence total ici, donc ouais, j'entends en permanence des choses. J'écoute en permanence. Ouais.
Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles ?
Olga Kokcharova. Ouais.
Et qu'est-ce que tu fais dans la vie d'une manière simple ?
Plus particulièrement dans le milieu artistique, je suis musicienne. Compositrice, artiste sonore, en fait, plein de... En fait, j'adore le son, donc je touche un peu à tout ce qui est lié au son, voilà, des choses très techniques, moins techniques, j'adore nager là-dedans.
Si on baisse un peu
le volume. Tout à fait. On peut même arrêter. Mais en fait, je vais préparer un petit texte de...
Pour l'interview.
De présentation pour introduire les gens...
pour le public.
L'écoute, en fait, pour le public. Donc, parce qu'en fait, il y a un texte qui existe à partir... En fait, c'était ça, le texte était l'inspiration principale du projet. C'est vraiment très court, tu peux le lire ? Peut-être c'est plus clair comme ça. Le texte que je vais lire, donc, il a été publié dans le livre qui s'appelle « The Songs of Trees », ou traduit en français « Écoute l'arbre et la feuille », du botaniste américain David George Haskell. Et c'est un livre où il dépeint les portraits des différentes espèces d'arbres. Et ce qui est intéressant, très intéressant pour moi dans les écrits de ce botaniste, c'est qu'il a une attention très particulière et très spécifique à lui, au son. Et il en parle justement pas comme les musiciens, mais vraiment avec un vocabulaire qui est propre à lui. Et donc il y a ce petit texte, il est tiré du chapitre qui est dédié à l'érable. Et, à la tombée de la nuit, la forêt vibre aussi au rythme saccadé et irrégulier de la circulation de la sève, de dilatation des vaisseaux du bois. De même que la horte palpite au rythme du flux sanguin, le bois vivant se gonfle la nuit lorsque ses cellules se gorgent d'eau. C'est le bourdon subsonique de la forêt. Dans les mains d'un luthier, le bois mort redevient animé grâce à la vibration. L'artisan le sculpte avec la pulpe de ses doigts, le tapote avec ses articulations. La caresse, le mouvement des doigts sur le bois crée une vibration que la matière renvoie en retour. Le bois répond. C'est lui qui guide l'artisan dans la fabrication de l'instrument. Sous forme de bulbes, disques et fuseaux sensoriels, les groupes de récepteurs enchâssés dans les strates supérieures et profondes de la peau des doigts chantent, réagissent au toucher léger, sentent les mouvements glissants ou les pressions prolongées. Entendre à travers le toucher les messages des fibres, c'est ce que certains luthiers appellent développer un autre sens. Voilà, ce texte était le point de départ et l'inspiration principale pour cette composition, pour moi, comme j'ai dit au début, avec les deux images, d'un côté l'arbre qui vibre en forêt avec la circulation de la sève, et de l'autre côté les instruments en bois qui vibrent avec la circulation du son. Et donc la composition est très littéralement, en fait, la reconstitution de ce cheminement, le cheminement de la sophistication du son, à partir de ce son qu'on pourrait qualifier brut, le son de la montée de la sève dans les arbres, sans aucune connotation, quand je dis brut, c'est sans aucune connotation négative, vers quelque chose qui va creuser dedans et être transformé en son d'instrument acoustique en bois.
Et les deux autres livres.
Alors ça, c'est le livre de David George Haskell, justement, d'où est extrait le texte. Et l'autre livre, c'est le livre de Pierre Liotagui, donc ethnobotaniste français, ça s'appelle « La plante campagne ». C'est vraiment aussi le livre qui me guide beaucoup en général. Et pour, en fait, si je l'ai amené aujourd'hui, c'est parce que
c'était important.
C'est important et aussi parce que en réalité, en fait, dans l'histoire que je viens de raconter, ce qui m'intéresse, c'est j'ai pas lu le dernier paragraphe du texte qui dit. Le luthier donne aux arbres ce que les charpentiers japonais appellent une seconde vie qui peut être aussi longue et riche que la première. Donc en fait, c'est un peu, quelque part, les luthiers ou les musiciens donnent une seconde vie à la matière qui est le bois mort. Donc on peut le formuler ainsi si on regarde les choses de la perspective humaine, mais on peut aussi regarder les choses dans l'autre sens, et c'est là que Pierre Liotagui il est intéressant pour moi, c'est de dire que en fait l'existence même des instruments acoustiques en bois, elle est complètement dépendante de l'existence de cette autre forme de vie qui est l'arbre. Donc en fait, pour dire en gros, c'est que s'il n'y avait pas d'arbre, il n'y aurait pas d'instrument en bois, acoustique en bois, ce qui bouleverserait en fait complètement l'histoire de la musique, par exemple. Voilà, comme ça, c'est peut-être plus clair.
Et le texte sera lu avant la performance.
Oui, je vais le lire. Je vais essayer d'introduire l'écoute qui est, comme j'ai dit, assez exigeante. Je vais essayer d'introduire le voyage pour les auditeurs. Ouais.
On peut compter sur leur assiduité.
Et pardon ?
On peut compter sur le fait qu'ils aillent jusqu'au bout des 50 minutes.
Après, ils ont le droit, il y a des coussins ici partout, c'est confortable. Donc, c'est tout à fait bien si quelqu'un s'endort. Donc, moi, je trouve que c'est une forme d'écoute très intéressante quand on flotte entre l'éveil et le sommeil. Et puis, évidemment, il y a toujours la possibilité de partir. C'est aucun problème.
Thank you.
Sculpter la voûte. Performance d'Olga Kokcharova. Hors champ de concert et vestibule sonore, numéro 8. Dans les coulisses de l'installation et des balances. Un documentaire radiophonique d'anthropologie musicale et sonore par François Berchenko. Avec la participation d'Olga Kokcharova à l'ordinateur, au mixage et à la diffusion. Avec la participation de l'équipe des trois techniciens menés par Benjamin Momus, régisseur son du GMEA, à l'installation, mise en place et lumière. Crédit et générique, Marie-Amélie Giamarchi et François Berchenko. Enregistrements et entretiens menés par François Berchenko à la salle haute du Grand Théâtre d'Albi durant l'après-midi du samedi 4 février 2023 durant l'installation et les balances de la performance Sculpter la voûte. Un programme radiophonique réalisé par Campus FM à Toulouse pour la série Starting Block, diffusée sur le réseau national des radios campus.